Voice of Indonesia.
Bonsoir, chers auditeurs, comment allez-vous? Je suis très heureux de vous rencontrer dans l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Nous allons vous présenter un certain nombre de programmes. Nous commençons avec le journal, le commentaire et d'autres infos, à savoir l'histoire d'aujourd'hui, Mon Indonésie, le magazine culturel, Apprendre l'Indonésien et des chansons indonésiennes. Bon, chers auditeurs, nous commençons par le journal. Soyez toujours avec nous, Voice of Indonesia, de l'Indonésie pour le monde, sur la fréquence de 33,25 kHz et sur le site web www.voinews.id.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie, avec le journal.
Bonsoir, chers amis. Merci d'écouter la voix de l'Indonésie à Jakarta. Voici le journal et on commence avec les titres. Selon le président Jokowi, en 2019, l'Indonésie devient plus souveraine. L'évaluateur des guéopards de l'UNESCO observe la préparation de Banyuwangi. Le séisme de 5,2 échelle de Richter a secoué l'île de Rote. BNPB s'étend à ce que l'éducation aux catastrophes soit une leçon à l'école. Le lac de Sipin sera la destination touristique excellente de Jambi. Amenant des milliers de touristes, le navire de croisière Regent Seven est accueilli avec l'art baliné. Réhabilitation forestière 2019 augmentée de 10 fois. Chers amis, nous présentons maintenant le journal complet. Le président Joko Widodo a déclaré qu'en 2019, l'Indonésie était de plus en plus souveraine sur la terre et sur ses richesses naturelles. Cela est prouvé par diverses mesures prises par le gouvernement pour répandre les ressources naturelles qui sont gérées par des étrangères. Le président Joko Widodo, par l'intermédiaire de son compte Instagram officiel, lundi a déclaré qu'au cours des 50 dernières années, les régions riches en pétrole et en gaz à Kalimantan, connues sous le nom de Bloc Mahakam, ont été contrôlées par l'entrepreneur étranger de la France, Total, Indonésie et l'entrepreneur du Japon, Inpex Corporation. Mais le Bloc Mahakam est enfin entièrement géré par Pertamina depuis le 1er janvier 2018. Le bloc Rokan Ariau, géré par une société américaine Chevron en 2021, sera entièrement géré par Pertamina. L'évaluateur de guéopard de l'UNESCO, Guy Martini, s'est rendu à Banyuwangi dans l'est de Java pour passer en revue de préparation de la zone de désignée comme site de parc biologique mondial. Il aurait déclaré mardi dans une déclaration écrite du gouvernement de Banyuwangi dans l'est de Java que le géoparc ne parlait pas simplement de la nature mais de tous ses aspects tels que la vie et la culture. Banyuwangi possède un patrimoine géologique extraordinaire et complet. Dans cette région, Martini a visité la place de Pulau Merah, le mont Ijen et le village traditionnel de Kemiren. Actuellement, les trois objets naturels se préparent à pouvoir faire partie du réseau mondial de géoparcs de l'UNESCO, un organisme des Nations Unies qui s'occupe de l'éducation, de la science et de la culture. Un séisme d'une magnitude de 5,2 sur l'échelle de Richter mardi a secoué l'île de Rote dans la province de Nusa Tenggara Est. L'agent de météorologie, de climatologie et géophysique, ou BMKG, a déclaré que le séisme qui avait frappé la région la plus méridionale de l'Indonésie a eu lieu à une profondeur de 81 km et environ 102 km au nord-ouest de la région de Rote Ndau. Selon le rapport sur le séisme, il n'y a pas de risque de tsunami. La communauté a été priée de rester calme et il n'y a pas encore de rapport du gouvernement local sur l'impact du séisme. L'Agence nationale d'atténuation des catastrophes au BNPB espère que les connaissances en matière de catastrophes deviendront un sujet particulier dans les écoles afin que les écoliers puissent mieux comprendre le potentiel et l'atténuation des effets de catastrophes. Soutopo Purwanugroho, responsable du Centre de données d'information et des relations publiques de BNPB, lors d'une conférence de presse à Graha, BNPB Jakarta récemment a déclaré que la méthode éducative est l'un des moyens efficaces d'atténuer la catastrophe. Jusqu'à présent, en général, certaines communautés et le gouvernement régional ne sont toujours pas prêtes à faire face aux catastrophes majeures. Selon lui, la connaissance des catastrophes n'est pas encore devenue une attitude, un comportement ou bien une culture qui lie la vie à l'atténuation des catastrophes. Vous écoutez le journal de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta. Le lac de Sipin dans le sous-district de Telanaipura, dans la ville de Jambi, devrait devenir une destination touristique excellente dans cette ville. En 2019, le lac de Sipin aura été lieu une course de bateaux internationale. Comme l'a déclaré le gouverneur par intérimaire de Jambi, Fahrori Umar, après avoir fait le tour le lac en bateau. Selon lui, l'attraction touristique du lac de Sipin est un potentiel touristique attrayant à développer au centre de la ville de Jambi, qui pourrait améliorer l'économie des résidents locaux. Cet lac situé dans le sous-district de Telanaipura et de Legok a une longueur de 4500 mètres et une largeur moyenne d'environ 300 mètres avec une profondeur de 2 jusqu'à 6 mètres. L'arrivée du navire de croisière Region 7-6 Marini qui transporte plus d'un millier de touristes étrangers dans le port de Benoa, Bali à la fin de 2018 a été accueilli par l'art traditionnel balinais. Le président directeur général de Labuhan Indonesia Trua, Nusrawayan Eka Saputra à Denpasar, Bali, a déclaré mardi à Bali que le navire de croisière était le seul navire de croisière à faire l'escale dans le plus grand port de Bali en 2018. Eka a également déclaré sur la base des données de la visite des navires de croisière depuis 2016, environ 56 navires ont été enregistrés transportant des touristes étrangers de 2000 jusqu'à 3000 par navire. Madame Siti Nurbaya, la ministre de l'Environnement et des Forêts, a déclaré que la réhabilitation des forêts et des terres serait multipliée par 10 pour atteindre environ 206 000 hectares en 2019. Elle a dit dans la réflexion sur la performance pour la préparation du travail 2019 à Jakarta que le financement proviendra du budget de l'État. Par la coopération, la réhabilitation des forêts et des terres d'une superficie de 482 000 hectares sera effectuée par le détenteur du permis de l'emprunt et de l'utilisation des zones forestières, responsabilité sociale des entreprises et forêts de plantation industrielle. Les communautés participent également à la réhabilitation des forêts et des terres par des forêts sociales et des dynamiques communautaires telles que les activités d'adaptation d'arbres. C'était le journal de la Voix de l'Indonésie à Jakarta.
Voice of Indonesia.
Chers amis, voici le commentaire intitulé « L'impact sur le shutdown aux États-Unis ». À l'aube de la nouvelle année 2019, le gouvernement fédéral des États-Unis est à nouveau confronté aux problèmes similaires à ceux survenus au cours de la première année du gouvernement du président Donald Trump. Le problème n'est pas le fonctionnement de certains agents du gouvernement fédéral ou appelé le « shutdown ». La raison de la cessation partielle du gouvernement fédéral est l'impasse des pourparlers des questions budgétaires 2019 en raison de désaccords entre le gouvernement et le Congrès. Le 22 décembre 2018, le président Donald Trump et le Congrès étaient confrontés à une impasse interne d'accord concernant des fonds pour la construction de murs frontaliers du pays avec le Mexique. Au début de 2018, une partie des agences du gouvernement fédéral américain a également connu shutdown pendant une semaine. Contrairement à cette année, au début de l'année dernière, la cause de shutdown est le désaccord sur la politique d'immigration, de l'action différée pour les arrivées d'enfants ou DACA et l'expulsion de personnes faisant partie du programme. Bien que ne soit pas la même chose, le principal problème de shutdown est le problème de la migration et de l'immigration. Cette année, la différence de point de vue entre le gouvernement et le Congrès est la demande du président Donald Trump pour que le Congrès puisse approuver le budget de 5 milliards de dollars pour la construction d'un mur frontalier avec le Mexique. Vers la fin de l'année, Donald Trump a déclaré qu'il annulait ses exigences pour que le Congrès lui attribue un budget pour la construction du mur frontalier. Néanmoins, l'impasse est toujours arrivée. Le Congrès a remis en question le projet de budget parce que lors de la campagne, Donald Trump avait déclaré que le financement de la construction du mur de la frontière sera financé par le Mexique. Cela devient un problème lorsque finalement Trump financera la construction du mur frontalier à l'aide du fonds provenant de l'impôt. Le cas de shutdown au début de l'année ne s'est pas produit uniquement à l'ère de Donald Trump. Le système de discussion des propositions budgétaires impliquant le Congrès avait déjà été mis en place sous la précédente gouvernement. Pour d'autres pays, la crise provoquée par le shutdown dans des agences du gouvernement fédéral américain n'a pas d'impact significatif. Une possibilité est uniquement le retard de l'assistance des États-Unis à certains pays dont les engagements ont été pris au début de l'année et peut être contraint en raison de la non-opérationnelle de l'agence en charge de shutdown. En plus des problèmes antérieurs qui ont provoqué le shutdown, peut-être qu'il ne peut que donner un aperçu de la tourmente de la politique intérieure américaine qui a un impact sur l'approbation du budget. C'était le commentaire de la Voix de l'Indonésie à Jakarta.
Voice of Indonesia.
Chers auditeurs, voici donc l'histoire d'aujourd'hui qui s'agit d'événements importants. Nous commençons l'histoire d'aujourd'hui avec l'événement « Le Japon a occupé Mani » le 2 janvier 1942. Au cours de la Seconde Guerre mondiale, le Japon a lancé une offensive contre les Philippines, la colonie américaine, le 8 décembre 1941, 10 heures seulement après leur attaque contre Pearl Harbor. Le bombardement aérien a été suivi d'un atterrissage de troupes terrestres au nord et au sud de Mani. Les troupes des Philippines et des États-Unis, sous le commandement du général Douglas MacArthur, ont tenté de survivre. Mani a été occupée par les troupes japonaises le 2 janvier 1942. Le 6 mai 1942, les Philippines ont été occupées par le Japon. L'autre information est sur l'Union soviétique a lancé l'avion sans pilote Luna 1 sur la Lune le 2 janvier 1959. Après avoir lancé avec succès le premier vaisseau spatial de Sputnik, l'agence spatiale soviétique a lancé le 2 janvier 1959 l'avion sans pilote Luna 1 visant à faire des recherches sur la Lune. L'avion transporte des émetteurs radio, le système de télémétrie et le système de détection. Nous finissons l'histoire aujourd'hui avec l'événement la création du commandement de Mandala pour libérer l'Iran occidental le 2 janvier 1962. Le 19 décembre 1962, le président Sukarno a sorti un mandat afin de lutter pour la libération de l'Iran occidental connu sous le nom des trois commandements du peuple Tricora. La première réalisation de Tricora est la création du commandement des opérations militaires nommé par la commande de Mandala. La commande de Mandala est formée par le président Sukarno le 2 janvier 1962 par le décret présidentiel numéro 1-1962. La commande de Mandala était formée pour libérer l'Iran occidental qui était encore maîtrisé à cette époque par le Néerlandais. Grâce à la commande de Mandala, Ellsworth Bunker, le représentant des États-Unis, a proposé les problèmes des Pays-Bas, Indonésie, auprès de l'Organisation des Nations Unies, qui peut finalement être résolu pacifiquement et l'Iran occidental a revenu dans les mains de l'Indonésie. Serviteur, c'était l'histoire d'aujourd'hui pour ce soir.
Malaka.
Serviteur, c'est la chanson Entre tous les mimpicos chantée par le groupe musical The Groove. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, de l'Indonésie pour le monde. Et voici donc mon Indonésie intitulée Les entrepreneurs établissent Kobidu. Serviteur, pour la rubrique suivante, voici donc mon Indonésie ayant pour le titre Les entrepreneurs établissent Kobidu. Un certain nombre des hommes d'affaires de 4 institutions d'affaires avec la réforme de Santri ont annoncé la création du centre de la communauté d'affaires intégrée, ce Kobidu à Jakarta, récemment. L'objectif est de construire une nouvelle économie nationale basée sur l'économie du peuple. Les 4 institutions commerciales sont la Coopérative nationale des partenaires de Santri, KMSN, le Forum national de Santri, FSN, la coopérative de Santri Millennial Indonésien, KMSN, et le centre de Santri Millennial, CIMAC. À cette occasion, le président de Kobidu, Marlon Kansil, et le secrétaire de Kobidu, Rahman Fajriansyah, ont lu la déclaration manuscrite de l'établissement de Kobidu. La déclaration contient plusieurs engagements, à savoir être le centre d'entrepreneurs indépendants 4.0, avoir le principe de solidarité et de tolérance, fondé sur la justice sociale et soutenant pleinement le programme économique du gouvernement basé sur Pancasila. Marlon Kansil a expliqué que Kobidu est une communauté de jeunes entrepreneurs engagés dans la construction d'un nouveau flux de l'économie nationale. Kobidu continuera à avancer et à se relever avec l'espoir que cela puisse avoir un impact meilleur sur l'économie de la population à l'avenir. Pendant ce temps, le président du conseil de formation de Kobidu, Ahmad Shawki Ma'ruf Amin, a déclaré que la création de Kobidu créerait un nouveau réseau et constituerait un moyen de médiation parmi les hommes d'affaires. Selon lui, Kobidu tentera d'appliquer la pensée de Kiai Haji Ma'ruf Amin sur le nouveau flux de l'économie indonésienne basé sur l'économie du peuple. Kobidu sera un lieu de développement pour les hommes d'affaires afin qu'ils se développent de manière optimale. Il a constaté que de nombreux hommes d'affaires avaient des difficultés à développer leurs affaires malgré les opportunités commerciales sans potentiel. Par conséquent, Kobidu jouera un rôle, y compris en faisant la formation et le mentorat afin que les affaires se déroulent comme prévu. Le coordinateur de CIMAC, Nur Rahman, a déclaré qu'il était fier de la création de Kobidu car il pourrait devenir un moyen de médiation parmi les hommes d'affaires tout en apportant une aide aux nouveaux hommes d'affaires. Selon lui, CIMAC, dont les affaires sont copiées à bas, continuera à développer ses activités en construisant la communauté des affaires copiées à bas. Il espère qu'avec la formation de Kobidu, le développement commercial de Kopi Abah pour être plus optimal. Serviteur, c'était mon Indonésie pour ce soir.
Voice of Indonesia.
Serviteur, vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, de l'Indonésie pour le monde sur la fréquence de 33,25 kHz et sur le site web www.venus.id. Serviteur, c'est le temps maintenant pour nous de vous présenter le magazine culturel sur le tourisme et la sagesse locale du peuple indonésien. Bonsoir serviteur, c'est un plaisir de vous rencontrer à nouveau dans le magazine culturel, un programme quotidien sur le tourisme, l'alimentation ainsi que les arts et la culture de diverses régions d'Indonésie. Dans l'édition d'aujourd'hui, je vais vous présenter l'île Penyengat. Serviteurs, sur cette île, il existe différents types de patrimoine historique, entre autres la grande mosquée du Sultan Riau, construite en utilisant le blanc d'œuf, le tombeau des rois, le tombeau des héros nationaux, Raja Ali Haji, le palais et la forteresse sur la colline de Kursi. Depuis le 19 octobre 1995, l'île Penyengat et le complexe du palais ont été proposés à l'UNESCO pour devenir un site de patrimoine mondial. Selon l'histoire, cette île minuscule située à l'estuaire de la rivière Riau est bien connue depuis des siècles car elle était un lieu escale pour prendre de l'eau douce, qui est fourni en abondance sur l'île. Mais selon le folklore, ce nom vient d'un nom d'insecte qui a des piqûres. La légende raconte qu'il y a eu des marins qui ont violé l'interdiction en prenant de l'eau. Il s'est donc attaqué à des centaines d'insectes venimeux. Ainsi, ces insectes ont été appelés Penyengat et cette île a été mentionnée avec le nom l'île Penyengat. Pendant ce temps, le peuple néerlandais a appelé l'île avec le nom de l'île Mars. L'île de Penyengat est une île historique qui occupe une place importante dans l'Empire Malais qui comprenait auparavant le territoire des sultanats de Johor, de Pahang, Siak et de Lingga, en particulier au sud de Semenanjung Melayu. Ce rôle important a été joué pendant 120 ans, de la création du royaume de Riau en 1722 à la reprise du royaume par les Hollandais en 1911. Il y a des endroits historiques à visiter sur l'île de Penyengat, y compris la grande mosquée du sultan Riau. La mosquée a été construite par le sultan Mahmud en 1803. Ainsi, dans le gouvernement Yang di Pertuan Muda Seth, Raja Abdurrahman, la mosquée a été rénovée en 1832. Le bâtiment principal de la mosquée mesure 18 x 20 mètres et est soutenu par 4 piliers. Aux quatre coins du bâtiment, il y a des tours où Bilal fait héros à la Zan. À la mosquée du sultan Riau, il y a 13 dômes qui ont la forme d'un oignon. Le nombre total de tours et de dômes à la mosquée est 17 pièces qui symbolisent le nombre de raka'at de 5 prières obligatoires par jour et par nuit. À gauche et à droite de la mosquée, il y a un bâtiment supplémentaire appelé Rumah Soto ou salle de réunion. Selon l'histoire, la mosquée a été construite en utilisant un mélange de blanc d'œuf, de chaux, de sable et d'argile. Avoir beaucoup d'histoire ne signifie pas de ne pas suivre l'ère du développement. La jeune génération de l'île de Penyengat a construit un lieu propice au selfie. Son emplacement est sur la colline de Mariam où vous pourrez admirer de beaux paysages entourant l'île. Chaque dimanche, cet endroit est peuplé de marchands qui vendent leurs objets d'artisanat. Pasar Warisan est le nom de cet endroit. Chers auditeurs, c'était notre magazine culturel pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. À demain.
Voice of Indonesia.
Serutak, c'était la chanson de Titi DJ intitulée Bintang Bintang. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, de l'Indonésie pour le monde. Pour la rubrique suivante, voici donc Apprendre l'Indonésien.
Voice of Indonesia.
Bonsoir tous les amis, on se retrouve dans l'émission Apprendre l'Indonésien, une rubrique qui vous introduit des vocabulaires indonésiens et vous guide pour parler indonésien. Cette émission est une collaboration entre la Voix de l'Indonésie, la station de radiodiffusion à l'étranger de RRI, avec l'Agence nationale pour le développement et le renforcement de la langue du ministère de l'Éducation et de la Culture de la République de l'Indonésie. Le sujet d'aujourd'hui est membayar taxi. Je répète, membayar taxi, ou en français, paye le tarif du taxi. Bonne écoute. Chers amis, je vais vous donner l'exemple d'une conversation intitulée « Membayar taxi » ou en français « Payer le tarif de taxi ». À la rue de Garuda, Tony arrive devant la maison de Choco. Tony a payé le tarif de taxi ou le prix du taxi.
Pa, kita sudah sampai.
Oh, ok. Berapa ongkosnya?
40 ribu.
Ok. Ini uangnya. Ambil saja kembaliannya.
Oh, terima kasih, Pak.
Après avoir écouté cette conversation, je vais vous introduire des vocabulaires et des phrases indonésiennes liées au sujet d'aujourd'hui, membayar le taxi, ou en français, payer le tarif du taxi. Je vais prononcer doucement et lentement chaque mot ou chaque phrase deux fois, et vous pouvez les répéter après moi. Kita sudah sampai. Kita sudah sampai. Qui signifie on est déjà arrivé. Berapa ongkosnya? Berapa ongkosnya? En français, combien ça coûte le tarif? 40 000. 40 000. En français, 40 000 rupiah. Ini uangnya, ambil saja kembaliannya. Ini uangnya, ambil saja kembaliannya. Qui signifie, voici l'argent, prenez le reste. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Qui signifie, merci, monsieur. Lorsque vous prenez le taxi en ligne, le tarif de taxi est déjà montré dans l'application. Mais vous pouvez demander s'il y a un changement de prix ou non. Vous pouvez poser une question. Berapa ongkosnya? Berapa ongkosnya? Qui signifie combien coûte le tarif? Et lorsque vous payez le tarif, si vous pouvez donner un pourboire au chauffeur, dites ambil saja kembaliannya. Ambil saja kembaliannya. En français, prenez le reste. Par exemple, Tony. Ini uangnya. Ini uangnya. En français, voici l'argent. Sopir. Maaf, tidak ada kembalian. Ada uang pas? Maaf, tidak ada kembalian. Ada uang pas? Qui signifie, excusez-moi, je n'ai pas de petit argent pour le reste. Vous avez l'argent approprié? Tony. Ambil saja kembaliannya. Ambil saja kembaliannya. En français, le reste est pour vous. Avant de terminer le programme de l'apprendre la langue indonésienne d'aujourd'hui, pour comprendre plus, écoutons encore la conversation une fois.
Pa, kita sudah sampai.
Oh, ok. Berapa ongkosnya?
40 ribu.
Ok. Ini uangnya. Ambil saja kembaliannya.
Oh, terima kasih, Pak.
Les amis, voilà l'édition de la rubrique de l'apprendre la langue indonésienne d'aujourd'hui. J'espère que cette édition pourra être utile pour ceux d'entre vous qui veulent savoir plus l'indonésien. On se retrouvera demain avec d'autres sujets intéressants. Merci beaucoup pour votre attention. À demain!
Cerita setelah Samsung The Kid Brothers ang titulé Kala Sang Surya Gemilang. Bon, cerita nous continuons notre programme avec les informations musicales. Pour ce soir, nous vous présentons le groupe musical Seventeen.
Voice of Indonesia.
Chers auditeurs de Voice of Indonesia, n'importe où que vous soyez, on se retrouve avec moi, Tiwi, dans la rubrique du magazine musical. Cette édition va vous présenter les chansons d'un groupe de Seventeen. Seventeen est un groupe pop-rock de Yogyakarta formé en 1999. Le dernier membre du groupe Seventeen est Ivan comme chanteur, Benny comme bassiste, Herman comme guitariste et Windu comme batteur. Jusqu'à présent, Seventeen a publié 6 albums et l'une des chansons les plus célèbres est Selalu Mengalah, ou en français, Sous comme toujours. Cette chanson raconte de l'expression du cœur de quelqu'un qui succombe toujours à chaque fois qu'il se dispute un combat avec son partenaire. Le 22 décembre 2018, les membres de Seventeen ont été victimes du tsunami du détroit de Sunda. Lorsque le tsunami a frappé, le groupe de Seventeen performait sur scène à Tanjung Lesung, Pandeglang, Banten. Le chanteur Ivan est le seul survivant, tandis que d'autres membres du personnel, y compris le directeur, l'équipage et la femme d'Ivan, sont mortes. Bon, chers auditeurs, voici la chanson de Seventeen, dont le titre est Selalu Mengalah, en français, Succombe toujours. Bonne écoute!
Berpikir sedikit tentang hatiku, mengapa ku
Voice of Indonesia. Voice of Indonesia.
Apa yang harus aku lakukan untuk membuat kau mencintaiku? Segala upaya telah kulakukan.
Voice of Indonesia.
Thank you.
Chers auditeurs, c'était l'émission quotidienne en français pour ce soir. Rendez-vous demain, même heure et même fréquence. À bientôt!